C'est les personnes à la salle qui ont déjà eu envie d'abandonner. Je parle d'abandon effectivement dans votre vie matérielle, que ce soit à l'école, que ce soit dans un quelconque domaine. Je parle aussi de votre vie spirituelle. Et je pense que pour la plupart d'entre nous arrive des fois, souvent, l'envie d'abandonner. Et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. On était avec mon épouse, donc du coup, effectivement, je disais qu'on a failli abandonner cet été. On était dans un camp d'adolescents. On était donc les pasteurs de ce camp et on était chargés de pouvoir apporter la prédication, mais voilà, de pouvoir avoir des interventions dans le domaine spirituel. Et effectivement, lorsqu'on est arrivé, on arrivait dimanche après-midi, donc notre première intervention c'était lundi matin. Et c'est vrai que nous, on revenait d'une semaine de vacances, donc on était à la plage, tout ça, on avait pu bien s'amuser. Donc on arrivait sur le camp peut-être pas spirituellement assez près. Et donc du coup, on arrivait, je devais apporter la prédication du lundi matin et j'ai trouvé les adolescents vraiment particulièrement turbulents. Je ne sais pas si, voilà, les adolescents c'est 12-16 ans, donc turbulents comme à l'école, ça s'envoyait des petits papiers, ça rigolait, ça ricanait, et il n'y avait pas vraiment de culte finalement parce que c'était vraiment une espèce de classe qu'on devait suivre, essayer de faire de la discipline, faire le gendarme, des choses que je n'apprécie pas du tout faire. Et donc du coup, après ce moment, lorsque je suis reparti dans ma chambre, vraiment j'avais le cœur vraiment lourd. Le lendemain, je devais apporter la prédication, c'était aussi un culte de toutes les personnes qui sont du service. Donc à 8h du matin, on avait un culte. Et donc j'ai pu apporter la prédication dans ce culte-là. Après, je suis remonté dans ma chambre et je me suis dit, bon, basta, j'en peux plus. Alors c'était le premier jour, j'avais déjà envie de tout abandonner parce que c'était la deuxième fois qu'on venait à ce camp. La première année, c'était vraiment spirituel, avec des ados vraiment engagés dans la foi. Et là, c'était vraiment des ados qui ne connaissaient pas vraiment Dieu. Et donc, du coup, c'était poussif, c'était difficile. Et j'avais vraiment envie d'abandonner. Donc, je suis parti voir mon épouse. J'ai dit, franchement, j'ai envie de rentrer sur Paris. C'est pas top. Ça va être un combat toute la semaine, tout ça. Et puis après, comme c'était l'intervention devait avoir lieu à 11h, il devait être 10h, 10h30, et puis du coup je suis reparti tout seul et j'ai pris ma Bible tranquille et puis je me suis mis devant Dieu. Et je dis, Seigneur, c'est vrai que je suis en train de voir de ces ados vraiment turbulents, difficiles, compliqués, mais peut-être que c'est moi qui suis spirituellement pas prêt. Je reviens de vacances, j'étais en fait dans l'euphorie de mes vacances et je me suis dit, ça va rouler. Mais quand on aborde quelque chose de spirituel, il y a besoin aussi d'une préparation spirituelle par rapport à ça. Et donc, je me suis confié à Dieu, je me suis dit, Seigneur, vraiment, pour moi, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de lâcher l'affaire, mais je pense que toi, tu as quelque chose pour ces ados. Et donc, on est arrivé au culte de mardi. La louange s'est bien passée. Je me suis dit, waouh, merci Seigneur. Et ensuite, il y a eu la prédication, et ensuite, il y a eu un appel, et les ados se sont déplacés, sont venus à l'appel. Et pendant toute la semaine, on a eu des super cultes. Et ce qui s'est passé vendredi, c'est quelque chose de formidable. Le vendredi, le dernier jour du camp, on avait eu la veille, le jeudi soir on avait eu un feu de camp, et le lendemain j'avais pu prêcher vraiment sur les réalités de l'enfer, et j'avais pris vraiment pour exemple le feu de camp. Et ensuite on a fait un appel, mais là c'est un appel à la conversion, de donner sa vie vraiment à Jésus, et pas mal des ados se sont levés et ont donné leur vie à Christ. Et quand j'ai raconté l'histoire aux responsables, ils m'ont dit, tu sais quoi Abednego, en fait avant que tu viennes dans ce camp, la semaine passée était beaucoup plus compliquée que le lundi matin que tu as pu vivre. Parce que ces jeunes étaient tellement turbulents qu'on en a pris 7, on les a mis à part et on voulait les faire rentrer sur Paris. On voulait les faire rentrer dans leur demeure et ne plus les garder avec le camp parce qu'ils perturbaient vraiment le camp. Et du coup, je leur ai dit, mais est-ce que vous pouvez me dire c'était qui les 7 turbulents que vous voulez faire rentrer sur Paris? Et quand ils m'ont dit leur nom, je les ai regardés, je me suis dit, mais ce sont 4 d'entre eux se sont levés et ont donné leur vie à Christ. Je me dis, Seigneur, c'est vrai que de temps en temps, on a envie de lâcher l'affaire. Mais là, c'était la preuve pour moi qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours se battre, toujours en vouloir plus, parce que fort souvent, au moment où tu vas abandonner, c'est à ce moment-là que la clé, vraiment ta délivrance ou la victoire que tu voulais apporter, c'est à ce moment-là qu'elle survient. Et donc du coup c'est vraiment un encouragement pour moi. Et donc ce message c'est vraiment pour encourager quiconque dans son ministère, quiconque dans sa vie avec Christ, quiconque dans son engagement, de dire ce soir c'est prendre cette décision de ne jamais abandonner. Est-ce qu'on peut prendre ensemble le texte de Hébreux 12 versets 1 et 3? Hébreux chapitre 12 versets 1 à 3. Je lis donc pour vous, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen.
Amen.
Ne lâche pas l'affaire, n'abandonne pas. Winston Churchill, un jour, a eu ce discours. Il était dans une classe d'élèves, de futures élites des États-Unis. Et il a prononcé ce discours qui est resté dans l'histoire. Et ce jour-là, il a fini son discours en disant « Jamais, jamais, n'abandonnez jamais ». C'était vraiment un discours pour préparer les élèves à ne pas abandonner. Ce même Winston Churchill avait dit cette phrase « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Michael Jordan aussi disait « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et 26 fois j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai réussi. » C'est pas des chrétiens, c'est pas des textes tirés de la Bible, mais c'est pour dire que finalement c'est quelque chose qui fonctionne, de ne pas abandonner, de pouvoir se relever après l'échec, de pouvoir s'engager dans le combat. C'est comme si c'était une loi de Dieu qui s'adresse non seulement aux chrétiens, mais à tout le monde. Tant que tu ne lâches pas, tant que tu n'abandonnes pas, tu vis le succès, mais après l'échec, vient la victoire. Et lorsqu'on ramène ça à une personne qui est chrétienne, c'est pour dire que nous, en fait, on ne marche pas d'échec en échec jusqu'à avoir la victoire, mais en réalité, on marche de victoire en victoire. L'échec pour un chrétien n'est pas le même échec pour le monde. Beaucoup de personnes pensent que lorsque tu n'as pas atteint ton objectif, alors ça veut dire que tu as subi l'échec. Par exemple, lorsqu'on prend l'histoire d'Étienne, qui effectivement est mort lapidé, on pourrait se dire que ce gars-là a loupé sa vie. Mais Étienne nous rappelle que juste avant sa mort, il a vu Jésus-Christ dans sa gloire. Et pour lui, ce n'était pas un échec, mais c'était une victoire. Ce que le monde considère comme étant un échec est pour le chrétien qui est vraiment engagé avec Christ une victoire. Je ne sais pas si tu as déjà subi des choses que tu considères pour toi comme des échecs, mais je vais te dire que ne te rappelle pas de ces choses-là comme des échecs, mais vois-les comme des victoires, comme des nouvelles opportunités où Dieu peut vraiment se glorifier dans ta vie. Et du coup, effectivement, il ne faut pas abandonner. Savez-vous que la plupart des serviteurs dans la Bible ont à un moment donné dans leur vie voulu abandonner ? Beaucoup de personnes pensent que la foi chrétienne, c'est de dire « je n'ai pas de problème ». Que la foi chrétienne, c'est dire finalement, je fais semblant d'aller bien. Je fais semblant que tout va bien. Mais lorsque je regarde la Bible, lorsque je lis la Bible, je me rends compte que la Bible, en fait, elle est tout à fait claire par rapport à ces choses-là. Jamais la Bible ne fait semblant. Jamais la Bible ne va dire que Abraham a eu une vie pleine de succès. Jamais la Bible va dire que Jacob a eu une vie pleine de succès. Jamais la Bible va dire que Paul a eu une vie pleine de succès. Au contraire, la Bible va nous rappeler les méfaits de Paul, la Bible va nous rappeler les mensonges d'Abraham, la Bible va nous rappeler les vols de Jacob, la Bible va nous rappeler qu'effectivement, ces gens-là, dans la Bible, ont eu des moments de doute, ont eu des moments où ils ont cru que Dieu les avait abandonnés. Jérémie, même après pendant son ministère, a eu des moments où il se disait, Seigneur, tu m'as complètement abandonné. Jésus-Christ est arrivé sur la croix et a dit Elohim, Elohim, lama sabachthani. C'est-à-dire que Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire qu'à un moment donné, chaque chrétien et même le Christ, à un moment donné, s'est dit j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de lâcher l'affaire. Et beaucoup de textes dans la Bible nous rappellent qu'effectivement, c'est compliqué, c'est dur. La vie chrétienne, elle est difficile. Mais la Bible nous rappelle aussi qu'il ne faut pas abandonner. La Bible, lorsque nous lisons ce passage, il est question de la carrière. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. En réalité, ce que l'auteur est en train de nous donner comme image, c'est que nous sommes effectivement non pas sur un chemin, non pas sur une route, mais nous sommes tous en tant qu'enfants de Dieu dans une arène. Dans une arène, nous sommes comme des gladiateurs de l'époque. Et lorsque les gladiateurs devaient s'affronter, il y avait l'arène et l'arène criait, scandait leur nom et les encourageait. Et donc du coup, la vie chrétienne, c'est de se retrouver dans cette arène, mais de savoir que justement, je suis dans l'arène, j'ai peur, je doute, Je vois l'ennemi beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus fort que moi. Je vois mes difficultés plus grandes que moi. Mais je me sens tellement encouragé par la vie d'Abraham. Je me sens tellement encouragé par la vie de Jacob. Je me sens tellement encouragé par la vie de Moïse. Je me sens tellement encouragé par la vie de Matthieu, de Paul, de Jacques, de toutes ces personnes qui m'ont précédé. Je me sens aussi encouragé par les personnes qui me sont contemporaines, des gens qui sont engagés avec moi dans la lutte, qui combattent aussi avec moi, qui vivent des difficultés avec moi. De temps en temps, j'entends leurs témoignages, quand on parle, on s'édifie, on s'encourage, on voit leurs difficultés. Des personnes qui ont vaincu le cancer, bientôt dans l'église de Montfermeil, on va faire un culte vraiment spécial témoignage, parce qu'il y a dans l'église des gens qui ont vaincu le cancer, il y a dans l'église des personnes qui n'avaient pas d'enfants, qui ont pu obtenir, avoir des enfants de la part de Dieu. Il y avait des personnes qui effectivement étaient malades, de maladies, où le médecin déclarait que c'est terminé pour elles, et que par la prière, elles ont été guéries. Je me sens tellement encouragé par les chrétiens. C'est pour ça qu'il est bon de pouvoir nous réunir ensemble. L'église à la maison, il faut complètement bannir ça, parce qu'on est tellement encouragé par la présence de ceux qui ont vaincu les difficultés, qui ont marché de victoire en victoire, qui ont gagné des combats. On est là pour s'édifier ensemble. Nous sommes tous dans cette arène, mais nous sommes tous encouragés parce que ce que Dieu fait dans la vie de chacun d'entre nous. Là, tu puisses regarder ton voisin et dis-lui clairement, tu es un miracle de Dieu. Tu es un miracle de Dieu. Tu ne sais pas d'où il vient, d'où elle vient, tu ne sais pas, tu ne connais pas de ses difficultés, mais si elle est là à côté de toi, c'est parce qu'elle est un miracle de Dieu. Mon frère, tu es tout seul, retourne-toi et dis à tes voisines derrière toi, vous êtes des miracles du Seigneur. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Gloire à Dieu. Le terme utilisé pour décrire la carrière dans laquelle on marche, on court, on est là avec persévérance, c'est le terme agon. La carrière qui est traduite par le mot carrière dans nos Bibles françaises, c'est le mot agon. Et le mot agon, vous savez que c'est un mot grec et qui a donné en français le terme agonie. Comme si, eh ben, en fait, notre vie chrétienne, c'est une forme on suffoque. On n'a pas le pas rapide, on a le pas lent. L'Église grandit lentement. Des fois, on a envie que l'Église grandisse vite. On a envie de se dépêcher, on a envie de voir de belles choses, mais l'Église grandit lentement. Et si tu prends le temps de réaliser l'œuvre de Dieu, les bienfaits de Dieu pour l'Église, tu vas te rendre compte que l'Église avance lentement, mais l'Église avance sûrement. Et de temps en temps, Dieu intervient miraculeusement et nous permet de faire un bond en avant. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas les choses fastes. Ce n'est pas de chercher tout le temps les miracles. Ce n'est pas tout le temps de chercher les choses grandioses pour pouvoir glorifier l'être humain, pour pouvoir satisfaire notre ego. Mais c'est de voir, en fait, comment Dieu nous bénit, comment Dieu nous remplit chaque jour, comment Dieu nous transforme, comment Dieu avance avec nous, malgré notre caractère, malgré notre ego. Des fois, Dieu nous brise pour nous faire grandir. Des fois, Dieu nous fait passer par des moments difficiles pour nous faire avancer. Dieu aimerait aller beaucoup plus vite. Mais le problème, c'est que nous, on met du temps à changer. On met du temps à réaliser les choses. Et Dieu est patient avec nous. Dieu prend son temps avec nous. Mais si on prend le temps de réaliser les bienfaits de Dieu et de les compter, on verra que le nombre de ses bienfaits est réellement grand. Il faut s'arrêter de temps en temps et se dire, Seigneur, c'est vrai qu'on court derrière le miraculeux, c'est vrai qu'on court derrière des choses grandioses. On voudrait voir des guérisons, on voudrait voir des changements de vie, on voudrait voir des vies transformées. Mais on est aussi content de voir que tu es patient, que tu es patient avec nous et tu prends du temps, Seigneur, avec nous. C'est vrai que nous sommes dans l'agonie, c'est vrai que nous sommes dans les difficultés, c'est vrai que nous sommes dans des moments difficiles. Et la Bible ne cache pas ces choses, ne promet pas une vie chrétienne rose, mais nous promet une vie chrétienne vraiment difficile. Mais aussi, il y a tellement de promesses pour chacun d'entre nous dans la Bible. Lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte qu'effectivement, Dieu déclare, c'est vrai que ce sera difficile, mais je te promets qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra avoir de l'effet. C'est vrai que ce sera difficile, mais je te promets qu'aucune de ces armes ne pourra prospérer. C'est vrai que c'est difficile, mais je te déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est vrai que c'est difficile, mais de la poussière et du fumier, je retire l'indigent et je le fais asseoir avec les grands. C'est vrai que c'est difficile parce que le juste, tombe 7 fois, mais aussi 7 fois, il se relève. Et là, je m'accroche réellement aux promesses de Dieu. C'est difficile, Seigneur, mais je crois que lorsque je tombe, oui Seigneur, tu me relèves. Tu me relèves. Et ça, je suis encouragé dans mes pires épreuves, dans mes pires difficultés, à ne jamais lâcher l'affaire. La vie chrétienne, c'est de courir, c'est d'avancer aussi à contre-courant. Mais c'est d'avancer quand même.
David dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ce texte vraiment m'encourage tout le temps. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que je ne cesse pas de marcher, même si c'est dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils sont dans des moments difficiles, vont avoir tendance à s'arrêter. Mais David déclare, je continue d'avancer, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que si je m'arrête, en réalité, je recule. Donc je ne veux pas m'arrêter, je veux continuer à avancer. Il y a des personnes dans la salle qui veulent continuer à avancer en dépit de toutes choses. En dépit de toutes choses, je déclare sur ma vie que je vais avancer. Je prophétise même sur ma vie que je vais avancer. Savez-vous que vos paroles ont une telle efficacité? Des fois, il y a trop de gens en fait qui abandonnent parce qu'ils ont des paroles de personnes qui abandonnent. Je n'y arrive pas, je ne peux pas, c'est trop dur, c'est trop fort pour moi, c'est trop grand pour moi, c'est impossible, c'est au-delà de mes forces, etc. Ben, j'arrête d'avoir ce type de langage-là, mais je veux m'engager avec Dieu et dire, Seigneur, je te tiens par la main et je prophétise sur ma vie. Même si c'est difficile, j'avancerai quand même. Je ferai des exploits. J'avancerai de victoire en victoire. Je ne m'arrêterai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Chaque jour, ma vie sera un témoignage que mon Seigneur est le Tout-Puissant. C'est décider réellement d'avancer en dépit de toutes choses. Décider d'avancer aussi en ayant confiance en Dieu. Beaucoup de personnes dans la Bible ont lâché. Parce qu'à un moment donné, elles ont perdu confiance en Dieu. Saül était loin de l'Éternel. Samuel avait oint Saül pour qu'il puisse être roi. Il avait reçu une onction spéciale pour être roi. Et Dieu leur avait dit à tous les rois, non seulement de lire les livres de la loi, de connaître la loi sur le bout des ongles, pour qu'ils évitent de pouvoir s'allier avec d'autres nations pour gagner certaines guerres. Et malheureusement, Saül, à un moment donné, a douté de Dieu. Il s'est allié avec des Égyptiens, il s'est allié avec d'autres nations. Et Saül, eh ben, Dieu l'a complètement rejeté. Et Saül avait bien commencé sa royauté. Et ensuite, il a fini par l'échec parce qu'il a perdu sa confiance en Dieu. Salomon, pareil, va commencer vraiment bien. Tout le monde se rappelle de la prière de Salomon qui demande à Dieu la sagesse et non la richesse. Et finalement, ben Dieu, dans sa compassion, dans sa bonté, va lui donner non seulement la sagesse, mais aussi va lui donner la richesse. Malheureusement, Salomon va se marier avec des filles étrangères, va commencer à adopter la culture étrangère et faire des choses que Dieu n'apprécie pas. Et finalement, à cause de Salomon, le royaume sera divisé. 500 personnes, Jésus avait dit à 500 personnes, allez m'attendre dans la chambre haute et je vous enverrai mon Esprit Saint. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte que finalement, il n'y avait plus que 120 personnes dans la chambre haute parce que tous les autres, deux tiers d'entre eux, avaient abandonné, y avaient lâché l'affaire. Mais les 120 qui ont tenu ont reçu cette puissance qui s'est manifestée le jour de la Pentecôte. Effectivement, ils ont parlé en langue. Effectivement, Pierre qui avait eu peur de l'armée romaine, qui avait eu peur et qui avait renoncé à Christ parce qu'il avait eu peur pour sa vie, ce même Pierre s'est mis debout et a prêché le premier message de l'évangile et plusieurs personnes sont venues à Christ ce jour-là. Ne jamais abandonner. Lorsque Dieu nous fait une promesse, effectivement, il faut aller jusqu'au bout. Amen.
Amen.
Amen. Paul exprime ainsi dans 1 Corinthiens 9, 27 ce qu'il faut faire pour ne jamais abandonner. Paul dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Et c'est ça en fait le gros problème de chacun des chrétiens, c'est que souvent nous mélangeons notre vie spirituelle avec des choses de ce monde. On a tendance à... Regardez le texte en fait, on est vraiment considérés comme des athlètes, des personnes qui vont se préparer, qui vont optimiser la préparation dans le but d'obtenir des résultats. On a vu les Jeux Olympiques il y a quelques semaines de cela. Regardez les athlètes dans leur préparation, tous les efforts qu'ils vont faire, aussi toutes les privations qu'ils vont avoir pour effectivement être prêts le jour J à l'instant T. Et nous souvent, dans notre vie chrétienne, on fait pas mal de compromis. On est d'accord avec pas mal de choses. On laisse nos cœurs être touchés par des choses qui sont vaines. On laisse nos cœurs être touchés par certaines critiques. Nous-mêmes, des fois, on va à critiquer. On se laisse vraiment remplir par des choses qui sont mauvaises. Et donc, du coup, l'action de Dieu arrive sur nous, mais de manière limitée, parce qu'il se retrouve avec cet obstacle de notre péché, de nos compromis. Et la Bible est claire avec ça. Elle dit que c'est à cause de vos péchés que je m'éloigne de vous. Et donc, effectivement, on a tendance, dans notre vie parisienne, dans notre vie en Île-de-France, à considérer des choses du monde, à être d'accord et à vivre des choses du monde finalement, à laisser nos pensées ne pas être renouvelées par Dieu, mais nos pensées sont vraiment accaparées par des choses de ce monde. Je ne suis pas en train de vous faire une prédication légaliste, mais réaliser à quel point la télévision est une mauvaise chose dans vos vies, et la télévision est une forme de compromis. À la télévision, dernièrement, il y avait une pub, je regardais, c'était à l'heure, il devait être 20h, 20h30, on regardait la télévision avec toute la famille, il y avait une pub où il y avait un gars qui effectivement était allongé dans un lit, et à chaque image, eh ben, ça changeait de femme, et il disait, ben voilà, aujourd'hui j'ai pécho, j'ai encore pécho, etc., etc. Et tout le monde rigolait avec ça, mais en fait, on est bombardé par des informations mauvaises, et lorsqu'on on se laisse regarder ça, on ne se rend pas compte, mais ça remplit nos pensées, ça remplit notre esprit, et nos réactions en fait sont des réactions qui ont pour effet ce qui remplit nos pensées. À quoi tu penses, c'est à ça que tu, c'est comme ça que tu vas agir. C'est la vie, c'est comme ça. Si tu penses à quelque chose, tu vas agir de cette manière-là. Et puisque nos pensées sont remplies par des choses mauvaises, on a des actions mauvaises. Déjà notre cœur est tortueux, déjà on est plein de péchés, déjà en nous on a des choses mauvaises, mais on laisse encore d'autres choses encore plus mauvaises vraiment rentrer dans nos cœurs, rentrer dans nos pensées, et on agit de cette manière mauvaise là. Je ne suis pas en train de vous faire une prédication légaliste, en train de vous dire abandonnez la télé, rejetez les bouquins, rejetez tout ça, mais choisissez ce que vous regardez. Prenez du temps aussi peut-être pour regarder la Bible, pour vaquer à la prière plutôt que de regarder la télévision, parce qu'il y a trop de mauvaises informations. Et Paul dit, je traite durement mon corps. C'est ce même Paul qui dit à un moment donné, j'ai envie de faire le bien. Je sais que le bien est bon à faire. La loi de Dieu m'ordonne de faire le bien. J'ai envie d'obéir à cette loi de Dieu. Mais malheureusement, j'ai ce péché en moi. Lorsque je veux faire le bien, je fais le mal. Lorsque je veux plaire à Dieu, finalement, je plais aux hommes. Et finalement, il dit, mais Seigneur, qui va me délivrer de cette mort? Mais ce même Paul va dire, à l'ouverture du chapitre 8 de Romains, qu'il n'y a plus effectivement aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et souvent, on a tendance à récupérer cette phrase et dire, Seigneur, oui, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais tu es toujours sur le jour de la condamnation si tu ne comprends pas qu'effectivement, à un moment donné, tu dois te lever, tu dois vouloir avoir cette volonté de faire ce que Dieu attend de toi et de ne pas faire ce que le monde attend de toi. Si tu veux que l'Esprit de Dieu te remplisse, si tu lis tout le chapitre de Romains 8, c'est vraiment une gloire à l'Esprit de Dieu qui effectivement nous remplit, qui prie à notre place, qui fait des, qui va vraiment intervenir lorsque on ne sait pas quoi dire à Dieu. C'est ce Saint-Esprit aussi qui va nous remplir de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu, qui va nous permettre de comprendre quel amour Dieu a pour nous. Mais c'est cet Esprit aussi qui nous dit de temps en temps, abandonne certaines choses, libère-toi de certaines choses, prends du temps avec Dieu, et souvent on ne l'écoute pas. Je t'invite vraiment à ne plus être condamné, ne plus être sous le joug du péché, parce que tu vas te laisser remplir par l'Esprit de Dieu. Trop souvent, on a du mal à l'église à chanter. On a trop du mal à l'église à sentir la présence de Dieu. On a trop du mal à l'église de vivre le miracle de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous laissent place à des compromis. Ce soir, je vais te dire, arrête de laisser place à toutes ces choses, tous ces compromis que tu fais dans ta vie. Mais dis maintenant, je veux devenir même presque légaliste. Je veux devenir une personne qui va vraiment traiter durement mon corps, qui va faire attention à ce que je regarde, faire attention à ce que je lis, faire attention à ce que je touche, faire attention à mes relations, faire attention à qui, avec qui je vais sortir, faire attention avec qui je vais me marier, faire attention à un tas de choses, tout simplement parce que j'ai envie d'être ce serviteur, cette servante que Jésus-Christ attend de moi.
Amen.
Être vraiment quelqu'un qui s'attend à Christ. Et je vais finir, je vais aller un peu plus loin en vous donnant vraiment 5 avertissements progressifs en fait qui font que souvent eh ben, on abandonne notre combat. Souvent on se dit, mais comment se fait-il que ce frère que je connaissais qui était intègre, il abandonne Dieu? Cette sœur, je croyais qu'elle servait Dieu, mais finalement elle a abandonné, etc. Beaucoup de choses nous font abandonner, mais il y a vraiment 5 choses progressives qui effectivement nous conduisent à l'abandon. La première des choses, c'est Hébreux 2, versets 1 à 3 qui dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une justice, une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant, et notez vraiment, souligner ce que vous voulez, mais souligner ce mot, en négligeant un si grand salut. La première des choses, mes frères et sœurs, qui nous conduit à l'abandon, et à l'abandon même des fois de la main de Dieu, c'est la première des choses, c'est l'indifférence. Ne sois pas indifférent. Ne sois pas indifférent. Ça commence par l'indifférence, mes amis. L'indifférence, c'est quoi? C'est que la prédication est prêchée, bouf, ça ne m'intéresse pas. Les chants sont chantés, ça ne m'intéresse pas. La Bible est dans ma chambre, elle ne m'intéresse pas. Il y a la prière, ça ne m'intéresse pas. Je suis là dans la salle, tout se passe, mais moi, je vois même j'entends même les mouches voler parce que je ne suis pas intéressé. Je suis complètement indifférent. Et l'indifférence fait qu'effectivement, on a des appels de Dieu. Dieu veut faire des choses pour nous. On a des vocations, on a des ministères, on a des choses que Dieu voudrait accomplir avec nous. Mais malheureusement, on est complètement indifférent. Différent. Même lorsqu'il y a l'appel à venir devant pour qu'on puisse prier pour vous, bah parce que vous étiez tout à fait indifférent pendant toute la prédication, vous êtes aussi indifférent à l'appel. Alors c'est le moment où le Seigneur avait vraiment choisi de t'utiliser, de faire de toi une personne importante pour son royaume, mais malheureusement, on est complètement indifférent. L'indifférence conduit à remettre en question la parole de Dieu. L'indifférence, ça fait qu'on va commencer à juger la parole de Dieu. On va commencer à se dire, est-ce que cette parole, elle est vraiment bonne? Est-ce que cette parole, elle est vraiment véritable, on va la mettre de côté, on va être indifférent à la louange, on va être indifférent à l'adoration, on va être indifférent à la lecture de la parole de Dieu, on va être indifférent réellement à la prédication du message de Dieu. Et finalement, eh ben, on va se rendre compte qu'on va abandonner les services, on va abandonner notre ministère, ou bien on va stagner dans un appel où Dieu voudrait qu'on grandisse avec lui, et finalement on va stagner tout ça parce qu'on est indifférent. La première des choses, frères et sœurs, ne soyez pas indifférent. Vous pouvez parfois arriver dans un culte et ne pas forcément comprendre ce qui se passe, ne pas comprendre forcément la prédication, mais je vous invite et je vous encourage à vous accrocher, à dire: Seigneur, peut-être que mon cœur est troublé, peut-être que je suis sorti de chez moi n'étant pas vraiment disposé à pouvoir t'adorer, mais là on est dans ton service et t'es en train de bénir, t'es en train de guérir, t'es en train de faire des choses merveilleuses, s'il te plaît Seigneur, je ne veux pas rester indifférent, je veux rentrer dans la présence de Dieu, être invité à entrer dans la présence de Dieu et ne pas rester dans l'indifférence. Amen. La deuxième des choses, juste après l'indifférence, c'est que Hébreux 3, versets 7 à 9, qui nous dit: n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. N'endurcissez pas vos cœurs. Ça, c'est l'incrédulité. Après l'indifférence, il se passe qu'il y a l'incrédulité. On se permet non seulement d'avoir des doutes sur la parole de Dieu, mais on se permet même à dire que ce n'est pas vrai. Il y a des personnes, des fois, il m'est déjà arrivé de prêcher dans une salle et voir un frère se lever et dire: arrête, c'est pas vrai, j'ai mon cousin, j'ai ma cousine, j'ai une personne de ma famille qui vient de mourir. Si Dieu existait vraiment, il n'aurait pas laissé mourir mon cousin ou ma cousine. Et donc du coup, ta parole, ton évangile, ta Bible, tout ça, c'est pas vrai. On devient complètement incrédule. Mais les vrais chrétiens, ceux qui sont vraiment accrochés à la foi, et j'en ai vu beaucoup, j'en ai connu beaucoup. Dernièrement, j'ai visité mon ancienne église à Pantin. Et lorsqu'on était dans l'adoration, je regardais quelques frères et sœurs, et je me dis, ces personnages, je les connais depuis 20 ans. Et je regardais leur vie, et je me suis rendu compte qu'effectivement, je me suis rappelé que ce frère avait perdu sa femme. Je me suis rappelé que cette sœur avait perdu sa maman. Je me suis rappelé que ce frère avait perdu sa fille. Mais je les vois accrochés à Christ comme jamais. Je les vois adorer encore plus que moi, malgré les pertes qu'ils ont pu avoir, parce qu'ils se disent qu'effectivement, nous avons gagné Christ. Et les personnes que nous avons perdues, effectivement, était aussi à Christ. Et donc, du coup, le plus important, c'est qu'un jour, nous les reverrons là-haut. Et c'est ça le plus important. On peut perdre des personnes dans ce monde. Et je ne vous annonce pas que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Au contraire, il y aura des difficultés. Et parfois, des difficultés vraiment énormes. Vous allez perdre des amis. J'ai perdu un ami l'année dernière. Et c'était vraiment un moment difficile pour moi. Mais je me réjouis parce qu'un jour, je le reverrai là-haut. C'est l'indifférence, mes frères et sœurs, qui va conduire à l'incrédulité. Mais ce soir, je vous invite vraiment à croire dans chaque promesse de Dieu, parce que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles s'accomplissent toujours, même si parfois elles mettent du temps. Et c'est pour ça qu'Abacuc nous dira: le miracle arrive quand même, qu'il est déjà en route. Et même s'il met du temps, attends ton miracle, attends ta délivrance, attends ta bénédiction, parce que même si elle prend du temps, elle arrivera quand même, parce que le Seigneur l'a déclaré. La troisième des choses, c'est la paresse spirituelle. Juste après l'incrédulité, il y a effectivement la paresse spirituelle. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte qu'il y a des frères dans l'église qui faisaient un service pour Dieu et 3 ans, 4 ans, ils ont abandonné. Et lorsqu'on va le voir, j'ai cet exemple dans mon église, un frère qui effectivement faisait des bonnes choses pour le Seigneur, était vraiment toujours le premier à se lever pour Dieu. Et là, ça fait peut-être 3 ans qu'on essaie de l'encourager à reprendre du service, mais il n'arrive pas. apprendre à reprendre son service. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose de très difficile. C'est quelque chose que finalement, humainement parlant, c'est facile. Mais les choses de Dieu sont spirituelles, mes frères et sœurs. Et lorsqu'on n'est pas préparé dans notre cœur, lorsqu'on est passé par l'indifférence, lorsqu'on passe par l'incrédulité, il y a effectivement cette paresse spirituelle. Et les gens qui sont paresseux spirituellement, tu peux les inviter à n'importe quel service, ils te répondront toujours « Non, je ne suis pas prêt. » Je ne suis pas sûr de mon appel. Je ne pense pas que ce soit pour moi. Est-ce que tu crois vraiment? J'ai besoin d'avoir des confirmations. J'ai besoin de chercher Dieu. J'ai besoin de savoir si c'est vraiment Dieu. Mais finalement, en fait, cette personne ne va pas vraiment chercher Dieu. Parce que ça fait depuis longtemps qu'elle ne prie plus. Ça fait depuis longtemps qu'elle ne va pas forcément à l'église, qu'elle va à l'église peut-être une fois sur trois, etc., etc., etc. Parce qu'elle a perdu cette confiance en Dieu. Et donc, du coup, il y a cette paresse spirituelle qui vient s'installer. La quatrième des choses après la paresse spirituelle, effectivement, c'est le péché. C'est le péché. Abandonner la main de Dieu. Je suis complètement dépassé par les choses. Je suis complètement indifférent à la parole de Dieu. Indifférent à la louange. Indifférent à toutes ces choses. Je deviens incrédule. Ensuite, je suis paresseux spirituellement. J'ai du mal à aller à l'église. C'est compliqué pour moi. J'ai du mal à servir. Et ensuite, je me noie tout seul dans mon péché. C'est presque inévitable, finalement, de se noyer dans notre péché. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Hébreux 10, verset 26. Le péché nous enveloppe tellement facilement. Vous ne vous rendez pas compte que le péché est beaucoup plus fort que vous. Parce que votre chair est assujettie au péché. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Nul ne peut le connaître. Et on ne se rend pas compte du combat qu'on engage vis-à-vis du péché. On ne s'en rend pas compte de notre vie chrétienne. En fait, Jésus nous invite carrément à crucifier notre chair. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait, de la puissance, de la force de cette parole, à crucifier notre chair. Parce que si vous ne le faites pas, si on ne le fait pas, c'est trop facile pour le péché. Et trop souvent, on arrive dans le culte, il y a un service. Et du coup, même si ça fait longtemps qu'on n'est pas venu à l'église, on a l'émotion, la musique est belle, le pianiste joue bien, la personne qui chante très mal chante bien. Et du coup, on est emballé par la rythmique. Les paroles sont jolies, etc. Ça touche notre cœur, ça touche notre âme. Et donc, du coup, on est emballé par l'émotion. Et du coup, on va lever les mains. On va dire, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te loue, je m'abandonne à toi, etc., etc. Mais le lendemain, on chute. Le lendemain, on tombe. Parce que lorsque la pression descend, on est exposé tout seul face à notre péché. Tout ça parce qu'on a été incrédule. Tout ça parce qu'on s'est laissé aller. Mais je vous invite vraiment à reprendre le flambeau. Je vous invite vraiment à reprendre le dessus. Et je vous encourage à vous dire que si vous décidez de reprendre le dessus sur votre chair, que l'Esprit va vous aider, va vous encourager à le faire et à effectivement marcher de victoire en victoire.
Amen.
La dernière des choses, c'est repousser Jésus. Beaucoup de personnes sont tombées, ont chuté, ils sont tombés dans une phase de rétrograde et repoussent Jésus, repoussent la parole de Dieu, repoussent Christ, comme le frère dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle repousse toute vérité. Et en plus de ça, ces personnes vont avoir des arguments. C'est tellement difficile lorsque je vois sur Facebook ou lorsque je vois dans les infos des personnes qui étaient chrétiennes et qui ont renoncé à l'évangile et qui aujourd'hui sont contre l'évangile. Des personnes qui sont converties à d'autres religions et qui vont maintenant essayer de combattre la Bible. Alors que c'est des personnes qui des fois étaient pasteurs. Des personnes qui, des fois, servaient Dieu, étaient des prédicateurs, etc. On se rend compte que, en fait, elles sont tombées dans ce cercle vertueux où, finalement, elles chutent petit à petit et elles tombent. Et là, je vous encourage vraiment à, quelque part, vous ressaisir. Alors, on va finir par l'encouragement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul finit par nous parler cet après-midi pour nous dire « Je parle en termes extravagants. Et je le suis plus encore par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles.
à la faim, à la soif, à des jeûnes, multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Beaucoup, pendant longtemps maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, je ne considère plus ça comme quelque chose d'important, mais avant, pour moi, ce qui était important, c'était ma coiffure. Partagez ça avec vous. Depuis, j'ai prié, on m'a posé les mains et ça va, je suis guéri de tout ça. Mais c'était important pour moi, en fait, finalement, de considérer ça. Et pour pouvoir choisir mon coiffeur, il fallait que je trouve un coiffeur qui a une bonne coupe. Pour moi, un coiffeur qui avait une coupe bizarre était forcément un mauvais coiffeur, ce qui n'est pas vrai. Mais je cherchais toujours un coiffeur qui avait une bonne coupe. Et lorsque je trouvais un coiffeur qui avait une bonne coupe, finalement, je me laissais coiffer par cette personne. Mais ce que j'appliquais dans ça, en fait, je l'applique dans beaucoup de domaines de ma vie. C'est-à-dire que lorsque je vais voir quelqu'un pour pouvoir me renseigner sur quoi que ce soit, j'ai besoin que cette personne, eh ben, elle puisse savoir de quoi elle parle. Vous êtes là ou pas? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je ne vais pas voir un gars qui va me raconter n'importe quoi, qui va faire le philosophe alors qu'il ne l'est pas. Je vais toujours essayer de voir un expert. Ok? Et si je peux trouver un expert de la souffrance, quelqu'un qui peut m'encourager dans mes difficultés, un expert que le meilleur des experts de la souffrance, finalement, c'est l'apôtre Paul. Lorsqu'on lit Paul, on se dit, mais comment est-ce qu'elle a pu faire? Plusieurs fois, elle était battue. Mais en prison, ce n'est pas des prisons. Aujourd'hui, des fois, ben, lorsque vous avez des missionnaires ou des aumôniers qui vont dans les prisons, c'est vrai que la prison, c'est difficile. Mais la prison de Paul, c'était beaucoup plus grave que ça. L'humidité, le froid, etc., etc., tout ça, mélanger la condensation, etc., ça, son corps était meurtri, son corps venait presque à pourrir même dans la prison, tellement les conditions d'emprisonnement étaient vraiment compliquées. Et je vois Paul, en fait, qui finalement, même dans la prison, il encourage les Philippiens à se réjouir et tout ça. Je me dis, mais franchement, si un gars peut m'encourager dans la souffrance, ce gars-là, c'est bien Paul. Et Paul nous encourage à faire trois choses, mes frères et sœurs, vraiment pour ne jamais abandonner. Sachant que le péché nous environne, sachant les difficultés, sachant qu'on peut tomber dans l'incrédulité, dans tout ce que je viens de citer tout à l'heure, Paul va nous encourager maintenant à courir avec paix, à courir avec pureté et à courir avec persévérance. Et je voudrais que vous puissiez garder ces trois choses vraiment dans vos mémoires et à dire dans ma vie chrétienne, je veux courir avec paix, je veux courir avec pureté et je veux courir avec persévérance. Amen. La première des choses, c'est rejeter tout fardeau. Relâcher tout fardeau pour être dans la paix. Relâcher la culpabilité. Relâcher cette culpabilité parce qu'à cause de la culpabilité, je doute du pardon de Dieu. Mais j'ai envie de croire ce soir que c'est vrai que je peux être pécheur, c'est vrai que je peux chuter, c'est vrai que je peux tomber. Mais si je m'accroche à Dieu, si je lui demande pardon, je crois que ce Dieu-là est capable de me pardonner. Même si parfois, eh ben c'est un péché qui est répétitif. Je me rappelle, il y a bien longtemps de cela dans nos églises, on prêchait que dès que tu avais péché une fois sur une chose et que tu recommettais ce même péché, tu n'avais pas le droit au pardon. Mais je voudrais t'inviter maintenant aujourd'hui à croire que Dieu te pardonne 7 fois, 77 fois, 7 fois. À chaque fois que tu te repens et que tu viens dans la présence de Dieu et tu dis « Seigneur, je te prie de me pardonner ce péché », Dieu te pardonne. Je t'invite vraiment à relâcher la culpabilité. La deuxième des choses, relâche l'amertume. Beaucoup trop de personnes sont amères, ont du mal à avancer parce qu'elles sont amères. Mon passé est dur, mes parents sont durs, mes frères et sœurs ont été durs avec moi, et on m'a fait souffrir. À l'école, c'était dur. À la maternelle, c'était dur. Et je suis là en train de me broyer du noir. J'ai de l'amertume. Les gens m'en veulent, etc. On critique, on parle dans mon dos. Et je suis là en train d'être amer à chaque fois. Je t'invite à relâcher cela et dire, Seigneur, mais peu qu'importe les critiques, qu'importe si on me dévalorise, mais toi, tu m'as valorisé. Tu es allé à la croix pour moi. Tu es venu mourir pour moi. Et je crois que même si j'étais la seule personne sur cette terre et que tu voulais sauver, eh bien, tu l'aurais fait quand même rien que pour moi, Seigneur Dieu. Finalement, je me rends compte que tu l'as fait pour l'église, mais je vois aussi que tu l'as fait uniquement pour moi parce que tu me valorises, parce que tu m'aimes. Je t'invite vraiment à croire en l'amour de Dieu, au pardon de Dieu et arrêter de ressasser tout le temps le passé, à vivre dans l'amertume, mais à vivre maintenant vraiment une vie nouvelle en Jésus-Christ. La troisième chose, c'est le regret. Je regrette, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire tel choix dans le passé, j'aurais dû faire tel choix, j'aurais dû faire telle école, j'aurais dû suivre tel cours, et maintenant, ben, aujourd'hui, je vous parle.
chose, j'ai un boulot qui ne me plaît pas, c'est compliqué, c'est difficile, et on vit dans le regret, mais je t'invite vraiment à te disposer devant Dieu et ne plus vivre dans le regret parce que tu es une créature nouvelle en Jésus-Christ. Je t'invite à vivre l'abondance en Jésus-Christ et dire: Seigneur, ben, je suis une personne nouvelle en toi. Aujourd'hui, on est en septembre 2016. Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Je veux me projeter vers l'avant. Je veux regarder vers l'avant. Je veux marcher avec toi. Je veux suivre tes pas et je veux plus regarder à mon passé. La troisième chose, c'est le doute, la peur. J'ai peur, je me demande si je vais arriver. Je me demande si j'en suis vraiment capable. Oui, tu es capable avec Dieu parce que Dieu te dit: avec lui, tu feras des exploits. Mais ouvre tes ailes et dis: Seigneur, je veux avancer avec toi parce que toi, tu es le Dieu victorieux et avec toi, je suis capable de marcher de victoire en victoire et d'exploit en exploit. Je rejette mon passé, je rejette mes doutes, je rejette ma peur, je rejette mes craintes et je m'accroche à toi et avec toi, je veux avancer. La troisième chose, c'est la déresponsabilisation. Souvent, on dit: c'est à cause des autres, c'est parce que je suis entouré de bras cassés, c'est parce que je suis entouré de personnes qui n'avancent pas. Mais je veux te dire aujourd'hui de faire comme ce serviteur dans la Bible qui a dit un jour: ben moi j'ai 80 ans aujourd'hui et je veux conquérir ce monde-là, d'avoir cet esprit de Caleb, de dire: peu importe, moi je veux conquérir, moi je veux aller plus loin. Si les autres ne veulent pas avancer, je vais les entraîner avec moi. Je veux être une sentinelle, je veux être celui qui prie pour que le Seigneur bénisse l'église. Je veux avancer avec Dieu et je veux pas avoir à me déresponsabiliser, mais je veux prendre mes responsabilités. Je suis un chrétien, je suis une personne nouvelle en Christ, je suis une personne que Dieu valorise, je suis une personne que Dieu a donné des dons, des talents, et je veux les utiliser pour Dieu et je veux me responsabiliser aujourd'hui pour servir le Seigneur. Et les personnes aussi qui ont soif de justice, on m'a critiqué et ces personnes qui m'ont critiqué, elles continuent de prospérer, elles continuent d'avancer et moi je recule. Oh, j'ai besoin de justice, j'ai besoin de forcer ma justice, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on t'a critiqué, on t'a piétiné, on t'a marché dessus, mais la justice, c'est Dieu qui l'a fait, frères et sœurs, c'est Dieu qui l'a fait et en son temps, il fera sa justice. Mais pendant ce temps-là, continue à glorifier Dieu, continue à avancer avec Dieu et ne pleure pas pour la justice qui n'a pas été faite. Ne pleure pas parce que quelqu'un t'a fait du mal et ne te demande pas pardon, mais dis: Seigneur, je veux pardonner cette personne, je veux oublier tout ça, parce que si je continue à m'accrocher à mon manque de pardon, finalement j'avance pas. Il y a des gens qui veulent tout comprendre. Oh, je comprends pas pourquoi l'église est pas bien, je comprends pas pourquoi on a mis telle personne à tel service, je comprends pas pourquoi on a fait telle et telle chose avec telle personne. Mais je t'invite aujourd'hui à, même si tu ne comprends pas tout, ce que tu dois comprendre d'abord, c'est que Dieu t'aime de tout son cœur, qu'il a mis des projets sur toi, qu'il a fondé de belles choses pour ta vie, qu'il a promis un ministère grandiose pour toi. Arrête de te préoccuper de tout ce qui ne va pas autour de toi, mais marche de l'avant et avance avec Dieu. Et la troisième chose, c'est le calme. C'est d'être calme, c'est de même malgré la tempête, les difficultés, de vivre dans les calmes, dans le calme. Courir avec paix, mes frères et sœurs, c'est rejeter toutes ces choses-là et dire: je veux foncer coûte que coûte. Coûte que coûte, je veux rejeter tout ça et je courir avec paix. Courir avec pureté maintenant, c'est rejeter le péché, tout ce qui ne concerne pas Dieu. Je ne veux plus toucher à ça, je ne veux plus vivre avec ça, je ne veux plus qu'il y ait ça dans ma vie. Je veux rentrer dans ma chambre et jeter toutes ces choses, les virer complètement pour que je puisse maintenant courir et avancer avec pureté. Mais je veux aussi débarrasser mon cœur du manque de pardon parce que je retiens trop de personnes dans mon cœur. Il y a trop de gens que je retiens, il y a trop de gens qui finalement, j'arrive pas à les bénir, j'arrive pas à les saluer, j'arrive pas à leur dire bonjour. Et peut-être même si un jour je les croiserai dans la rue, j'aurais peut-être envie de changer de trottoir. Non, de ne pas d'avoir ce ressentiment, ces choses qui viennent pourrir notre vie, mais carrément de rejeter toutes ces choses et dire: Seigneur, maintenant je veux marcher avec pureté. Et la troisième des choses, c'est marcher avec persévérance. Et le plus bel exemple que l'apôtre Paul va prendre, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point, pardon, l'âme découragée. C'est en fait Paul en train de vous dire que tout ce que vous êtes en train de vivre, Jésus l'a vécu 100 fois plus. Jésus a vécu toutes ces choses 100 fois plus, mais il n'a jamais abandonné. Il a toujours continué à avancer. Il ne l'a pas fait pour lui, mais il l'a fait pour chacun d'entre nous. Il a subi les coups de fouet, il a subi le rejet, il a subi l'abandon, il a subi les critiques. Même lorsqu'il guérissait des gens, d'autres personnes le critiquaient. Même lorsqu'il faisait de belles choses, d'autres personnes étaient contre lui. Et finalement, les gens qu'il a le plus béni, ce sont ces gens-là qui l'ont crucifié. Si tu vois les gens dans la vie, des fois tu vas bénir quelqu'un, tu vas encourager cette personne, tu vas l'aider lorsqu'il aura a des problèmes financiers, tu vas l'aider lorsqu'il aura des problèmes dans sa vie spirituelle, tu vas essayer de l'encourager, et c'est souvent cette personne-là qui va se retourner contre toi. Mais Jésus est en train de te dire, j'ai subi plus de choses que ça, j'ai vécu plus de choses que ça, j'ai vécu la croix, j'ai vécu l'ensevelissement, j'ai vécu d'être dans le tombeau, mais au troisième jour, je suis ressuscité, parce que celui qui n'abandonne pas vit la gloire de Dieu. Et ce soir, c'est ce que Dieu t'invite à vivre la gloire de Dieu, à être une personne qui n'abandonne jamais, à être une personne qui est toujours encouragée, une personne qui encourage les autres, une personne qui avance, qui persévère malgré les moments difficiles, qui le fait coûte que coûte, parce que cette personne-là a décidé de ne jamais abandonner. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui a vraiment pris cette décision dans son cœur? Je vais terminer par la prière pour toi. Et si tu es dans cette salle et tu dis, Seigneur, ben voilà, c'est la nouvelle année dans l'église, c'est la nouvelle année dans l'école, c'est la nouvelle année au travail. C'est vrai que j'ai été en vacances, mais aujourd'hui, ben, je veux reprendre les rênes. Je veux remonter à cheval. C'est vrai que je suis tombé, mais je veux remonter. Je veux vraiment vivre cette vie que tu m'as promise. Et vivre cette vie que tu m'as promise. Et je veux décider de ne jamais abandonner. Si tu es là dans cette salle, est-ce que tu peux lever la main avec moi? Est-ce que tu peux lever la main beaucoup plus haut aussi?